depuis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans les jardins suspendus qui s'attellent jusqu'à l'été à la recherche d'Olivier d'Ancône, un bénédictin peut-être qui s'appelait peut-être pas Olivier d'ailleurs et qui vivait peut-être entre le 5e et le 6e siècle naturellement de notre ère. L'intelligence humaine des choses passe par les mots. Elle passe aussi par les images. Les bêtes qui nous tiennent compagnie ne comprennent pas, quand nous leur en faisons part, nos motivations et nos convictions politiques et morales, esthétiques et spirituelles. Elles ne nous reconnaissent pas plus quand nous leur tendons des photos de nous, prises en leur compagnie lors de notre séjour commun à la montagne l'été dernier. L'intelligence humaine utilise des mots, bien sûr, mais aussi des icônes, des représentations de plantes et d'animaux, de personnes et de paysages naturels ou urbains. Mon chien ne se moque jamais de mes chemises à fleurs portées sous les tropiques. D'ailleurs, puisque ça y ressemble, les cartes postales sont des éléments d'illustrés qui touchent à la perfection. D'un côté, une icône publiée à de très nombreux exemplaires, comme des mangas, des clichés, des images d'Épinal. Et de l'autre, un avis, souvent bref, un souvenir partagé, quelques informations d'une connaissance, d'un ami, d'un proche, de la famille. La carte postale de vacances est un genre. Côté face, une photo, ou plusieurs disposées avec style, et côté pile, des mots. Une plage, la mer, l'horizon, puis le ciel. Et de l'autre côté, je me baigne tous les jours. Vous, vous êtes au bureau tous les jours, tant pis. Vous comprenez bien, très bien, l'individu, la personne qui plonge et qui sent peut-être le sable du fond lui caresser le ventre. Mais vous ne sentez rien. Vous avez déjà refermé la boîte aux lettres et vous rentrez chez vous pour lancer la carte sur la table. Alors vous voyez bien de vos propres yeux. Le ciel est bleu, la mer est verte, il a peut-être laissé la fenêtre ouverte. Les mots « water »,« Wasser », »,« eau » ou « agua » n'ont rien de l'eau. Mais l'image sur la carte emporte le reflet jusqu'à votre cuisine, avec son petit timbre que vous avez déjà dans votre collection. Ainsi, vous pouvez lire la description d'un personnage de roman en comprenant très bien mais sans rien voir. Il porte des lunettes, il a de l'embonpoint et quelques tics nerveux. Vous le savez désormais, mais vous n'y voyez rien. Et ça n'est pas utile, puisque il s'agit de lire. Vous pouvez voir ensuite son portrait en couverture ou sa tête dans un film, le même. Et vous le voyez bien, sans tout à fait le savoir. Quelqu'un vous fait noter sa belle chemise à fleurs. Vous l'aviez vue sans doute, mais sans rien vous en dire. Les enluminures des codex médiévaux sont un trésor pour l'historien. Les pages joignent alors le geste à la parole. Aux archives, vous lisez et prenez la mesure d'une façon d'écrire. Et à côté, vous voyez et prenez la mesure d'une façon de dessiner et de peindre. L'environnement mental ainsi restitué est un peu plus complet, qu'il soit environnement vécu ou environnement imaginé, rêvé, espéré ou craint. Votre ancêtre, plus ou moins lointain dans le temps et l'espace, est là avec sa langue, qu'il vous faudra traduire. Il propose aussi des illustrations, plus ou moins exotiques, pour tenter de le comprendre dans ses formes et ses couleurs. J'ai là un joli bouquin, L'enluminure au Moyen-Âge de Karl Nordenfalk, chez Skira. Il nous explique l'enluminure à la fin de l'époque romaine. C'est au Moyen-Âge que l'enluminure connaît sa véritable floraison. Elle présente sans conteste le plus riche et peut-être aussi le plus pur domaine artistique permettant une étude approfondie de la peinture médiévale. Tout l'art pictural du Moyen-Âge se fonde sur l'illustration et c'est à plus forte raison le cas pour l'enluminure. Le rapport étroit qui relie entre texte et image et ornement conditionne directement cette forme d'expression. Ce rapport variera durant l'évolution de cet art et connaîtra successivement 1000 solutions différentes. Leur étude est un problème essentiel pour l'histoire de l'enluminure. Si l'art des enlumineurs et typiquement médiéval, il ne faut pourtant pas, comme le vitrail par exemple, inventé à cette époque. Dans l'Égypte antique déjà, les rouleaux de papyrus qui accompagnaient les défunts dans la tombe pour leur servir de guide vers le royaume des morts étaient munis d'illustrations en couleur. Et si les Grecs de la période hellénistique, de même que les Romains, n'accordèrent pas à l'enluminure une place prépondérante dans leur production artistique, il ne subsiste aucun doute, malgré la rareté des témoignages qui nous sont parvenus, qu'ils possédaient des volumes illustrés, en particulier pour les textes scientifiques. Dans les œuvres littéraires, les illustrations semblent destinées dès l'origine à donner au lecteur des points de repère. Ceci était d'autant plus nécessaire que, dans l'Antiquité, les colonnes du texte n'étant pas numérotées, on ne disposait d'aucun système de référence ou de registration. Du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ, le rouleau de papyrus fut progressivement abandonné et son remplacement par le codex en parchemin dota l'enluminure d'un nouveau support matériel. La page présentait un avantage en offrant aux artistes une surface d'un format déterminé. Et pourtant, on hésita longtemps à utiliser cet avantage, sauf pour les portraits d'auteurs. Comme dans les rouleaux, les illustrations continuaient à dépendre de la disposition typographique plutôt que de la page du codex, restant insérées comme auparavant dans les colonnes du texte et ne possédant en général ni cadre ni arrière-plan. C'est ainsi qu'on illustra encore les annales de Ravenne des 5e et 6e siècles qui nous ont été transmises par des copies fragmentaires du Haut Moyen-Âge. L'enluminure au Moyen-Âge de Karl Nordenfalk aux éditions Skira, un très beau livre qui permet un voyage en mots et puis en forme et en couleur. La musique, c'était Riley Lee, Bubbling Spring, un printemps pétillant. C'est l'album Buddha's Dream 1984 et je remercie Landy Unger, l'ange musical des jardins suspendus, de nous avoir choisi cette musique éthérée. Il me reste à remercier enfin Sylvain qui réalise tout ça. Ciao, ciao.